J'ai travaillé énormément avec les communautés autochtones. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire des Autochtones dans les 200-300 dernières années. Bouchard en a parlé un peu. Tous ces peuples-là ont essayé un peu ce que vous dites là. Puis la chose qu'on a essayé de faire, c'est de les écraser le plus possible pour pas qu'ils mettent en marche. Encore aujourd'hui, je travaille encore avec les communautés autochtones. Puis le moyen qu'on trouve pour contrecarrer ça, c'est de créer de la bisbille à l'intérieur des groupes. Comment on va combattre ça, la bisbille à l'intérieur des groupes? Vous parlez de partir des municipalités. Le problème majeur qu'on connaît, selon moi toujours, c'est que dans l'évolution de notre société, on a fondé une société de bien-être, que je définis par le fait que chaque être humain en veut le plus possible, tirer le plus gros revenu, faire le moins possible de travail. On bâtit une société où on est en décroissance de volonté de faire quelque chose. Je me demande comment on peut faire une décroissance ailleurs quand déjà, nous, au niveau de l'être humain, on le fait présentement. Là. On essaie de rabaisser vers le bas. On pousse pas pour l'excellence. Vous parlez des municipalités, puis le problème majeur qu'on connaît des municipalités présentement, c'est que les gens qui sont élus de bonne foi, de bonne volonté, ont pas pour la majorité l'expérience et la compétence pour mettre en œuvre ce que vous dites et ce que vous prônez. Fait que je me demande par où on doit commencer pour essayer de mettre ça en marche. On le voit dans les municipalités. L'environnement, les personnes qui décident n'ont pas comme de connaissances profondes en environnement. Ils prennent des décisions là plutôt politiques, puis souvent monétaires, parce que j'ai été impliqué dans plusieurs municipalités sur des choix qui ont été, en tout cas, poussés monétairement parlant. Comment on peut défaire ça? Moi, j'ai quelques années derrière moi, j'espère, encore, puis je vois pas, là. On est toujours comme face à cette espèce de mur de l'être humain qui veut pas, qui en veut toujours plus pour lui. Fait que ça va en contradiction avec ce que vous dites, selon moi.
Ouais.
Faudrait que l'être humain, au départ, seriez-vous d'accord, vous, d'avoir le même salaire qu'un policier, qu'un plombier, qu'un mécanicien, que tout le monde soit sur le même départ? Ça serait le départ de choses, selon moi. Le boulanger gagne autant que l'autre à côté. Mais on n'est pas dans une société comme ça. Il faudrait avoir un départ commun. Mais le départ commun, je ne sais pas où il doit partir, parce que je ne l'entends pas dans ce que vous dites. Théoriquement, ça semble viable, mais pratiquement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des réponses à ça, mais moi, je me pose la question, ça fait longtemps. Puis à chaque fois, puis regardez la dernière loi qui va se passer, là. C'est que pour les gens puissent plus s'opposer au pouvoir en place, c'est 1500$ d'amende. Moi, je me suis déjà fait sortir d'un hôtel de ville parce que je parlais trop fort. Je n'ai pas utilisé le micro. La policier m'a remonté. Non, mais j'ai élaboré un peu, mais je n'en rends encore.
OK. Merci. Bon, il y a d'autres membres dans la salle qui pourraient répondre, qui pourraient m'aider sûrement. Donc, on peut aussi ouvrir la discussion. J'ai pas à garder le micro, mais je commence peut-être. Des humains qui en veulent toujours plus. Vous partez de là, et effectivement, c'est le problème, en fait. Mais pourquoi des humains en veulent toujours plus? Ben parce que nous sommes finalement les fruits d'une certaine société. Cette société nous fait agir de cette manière-là, en fait. Hein. Effectivement, nous vivons comme des égoïstes, mais parce que c'est la bonne manière de s'adapter dans notre monde. Si vous êtes trop altruiste dans ce monde-là, vous allez mal finir. Ça va vraiment mal finir pour vous. Donc on apprend très vite dans ce monde-là à devenir minimalement égoïste et à penser à sa pomme d'abord. Donc, ça c'est le problème de départ, mais c'est pas un problème irrémédiable. Et c'est là où je reviens sur ce que vous dites des autochtones. Comment moi je suis arrivé à l'idée de décroissance? En faisant de l'anthropologie et de l'ethnologie. Puis en découvrant que y avait des humains qui étaient préoccupés par toutes sortes de choses, mais certainement pas par cette espèce de recherche d'accumulation de capital et de toute puissance. Donc, ils avaient d'autres folies, hein. Je suis pas en train de dire qu'ils étaient forcément mieux non plus, sur tous les plans. Mais, en tout cas, ils étaient pas pris là-dedans. Donc, ça disait quoi? Ça disait que l'humanité n'est pas condamnée à vivre sur ce mode-là, en fait. Nous vivons comme ça parce que notre société nous impose de vivre de cette manière-là. Mais il y a tout à fait matière à faire autrement. Et il y a des humains, ici et maintenant, qui vivent déjà autrement, qui font la démonstration que c'est possible. Je dis pas que c'est facile, mais que c'est possible, que ça existe. Alors ce que je disais pour finir, c'est par là que ça commence. Commencer à essayer d'inventer d'autres façons de vivre, et puis par ailleurs lutter politiquement pour gagner justement du pouvoir sur le plan municipal. Bah, ce que fait mon copain Guillaume, bah c'est ça, ça fait voilà des choses intéressantes qui sont une façon de se mettre en chemin. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Moi je dirais non. Pour être clair, c'est-à-dire que ce monde post-croissance là que j'ai esquissé, c'est une direction. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de sûrement très différent. Je crois qu'il faut être assez clair que on est très loin de tout ça. Enfin, donc, ce qui n'empêche pas qu'il faut se battre. À mon avis, si on tient à ces valeurs que j'ai mises de l'avant, la question, bon, évidemment, de la soutenabilité, mais aussi de la justice et de la liberté. C'est pas le choix en fait. Donc, mais je crois qu'il faut rester très modeste par rapport à nos possibilités. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même le faire. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'anime. Je sais pas s'il y a de Guillaume, tu voulais réagir? Non.
C'est une question sur la protection de la nature dans des terres privatisées. Il y a un léger préambule que je vais essayer de faire rapidement. Dans le fond, ce que j'ai compris de ce que nous dites, là, sans, on va dire, ultra simplifié, souvent on dit on peut pas remettre la pâte à dents dans le tube, puis dans le fond, c'est ça qu'il faut faire. Donc, de déconstruire des mécanismes, une des choses qui s'est produite, c'est avec la colonisation, c'est la privatisation des terres. On est parti 20 000 ans, on ne se posait pas de la question, c'était de la glace. Ensuite, c'était de l'eau. L'eau s'est retirée, les Premières Nations sont arrivées qui n'ont pas une relation de possession au territoire, mais de faire partie de la nature. Ensuite, on est arrivé avec la colonisation. Les gens sont devenus propriétaires. Et là, on regarde actuellement, il y a à peu près 70 organismes de conservation qui œuvrent dans le sud du Québec et qui achètent des terres. Et 40 ans de ça, ça donne à peu près moins de 1% du territoire. Donc, clairement, c'est pas la solution unique pour protéger la nature que de déprivatiser, peu importe le moyen, là, parce que c'est pas exactement déprivatiser, mais on va dire de protéger la nature par acquisition. Vous parliez beaucoup de vivre in situ, là. Je vais pas répéter ce que vous avez dit, là, parce qu'il y a vraiment un bel enseignement là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Clairement, déprivatiser n'est pas la solution unique. Donc, c'est continuer à mieux habiter dans des terres privatisées. Est-ce que vous voyez des avenues de solutions pour mieux protéger la nature sur l'ensemble du territoire, pas juste l'objectif de 30% là, qui est issu de la COP15, mais vraiment d'avoir une protection intégrale du territoire?
Sur la propriété privée, je pense que ce que nous critiquons dans la perspective que j'ai esquissée là, c'est la propriété lucrative. C'est le fait de pouvoir utiliser un bien quelconque, notamment un bien foncier, pour faire de l'argent. Donc c'est ça qu'on va critiquer. Par contre, assurer finalement à un humain la propriété sur un territoire qu'il occupe pour lui, pour son usage, dans un souci de partage avec les autres humains alentour, donc ce qui va supposer que ce bien foncier soit limité, pourquoi pas en fait, effectivement, pourquoi c'est quelque chose qu'on peut défendre, je crois. Donc même si je pense qu'effectivement c'est peut-être plus intéressant de s'engager sur le terrain de la communalisation, mais une propriété d'usage, ça peut être une façon intéressante d'aller dans le sens d'une plus grande protection du territoire. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez m'entendre dire. Donc voilà pour ma réaction, mais je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris votre préoccupation. Hein,
ben, c'est ça. Votre réponse était dans le bon sens.
Ok, bon, c'est bien. Ok, merci.
Bonjour, merci pour cette belle conférence, premièrement. Moi, en fait, j'ai pas une question. Je veux juste hijack le micro pour vous parler de quelque chose de concret. qui se passe en ce moment, qui est vraiment en lien avec tout ce qu'on vient de parler, en fait. Là. Moi, j'habite dans les Basques, et puis dans les Basques, en ce moment, il y a le projet de la poursuite de l'autoroute 20 pour se rendre au fameux Costco, qui va y avoir ici à Rimouski. Fait qu'on est toutes concernées par ça. Je vais en parler vraiment rapidement. Là, ça fait 2 ans que ce projet-là a été remis sur le PQI, le plan québécois des infrastructures. Et puis là, ça commence à débouler quand même tranquillement. Puis la lutte politique, elle se passe en ce moment. C'est vraiment là qu'on a le pouvoir d'essayer de changer les choses avant que ça devienne une lutte de terrain. Fait que j'avais envie de toutes et tous vous inviter à suivre la page Facebook. Le pont de la Vin, ça tient pas debout parce qu'il va y avoir vraiment la suite. Il va y avoir tout le temps les informations qui vont se passer là-dessus. Fait que c'est ça. Ça va bouger beaucoup prochainement. En ce moment, ils sont en train de faire des forages, justement, pour refaire des études sismiques, là. Ils nous tiennent au courant de rien. Toutes les demandes qui ont été faites pour les études, on sont caviardées. Fait qu'on n'est pas capable d'avoir aucune information sur ce qui se passe. Puis le dernier BAP qui a été fait sur ce projet-là date de 2001. Fait qu'on s'entend que c'est plus très à jour concernant nos concerns environnementaux qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est ça. Allez voir la page, le pont de la Vin, ça tient pas debout. Puis c'est ça, ça nous concerne toutes. Merci.
Merci.
Bonjour, merci pour la conférence. Moi, ma question, c'était à savoir, est-ce qu'une société, selon vous, une société de décroissance est compatible avec une société de loisirs ou juste de poursuivre, mettons, l'art, puis le développement des sciences pour le développement des connaissances. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine technique qui est nécessaire jusqu'à un certain niveau, là, si on veut mieux comprendre l'univers qui nous entoure, puis si on veut se donner au plaisir de la musique et des arts plastiques et des autres qui existent.
Peut-être vos dernières phrases, c'était comment vous avez terminé sur le... J'ai l'impression que c'est juste.
J'ai l'impression qu'il y a une certaine technique.
Ah oui.
Une certaine technique qui est nécessaire si on veut poursuivre le développement des connaissances.
C'est ça. Ok. Bon, il y a tout un débat à faire sur la science moderne. Il y a Noémie qui est là, donc collègue du collectif Polémos, qui serait plus critique que moi, je pense, sur la science. Mais je dirais que la science moderne, dans ce qu'elle a de plus acceptable, c'est-à-dire comme entreprise de compréhension du monde, elle s'est développée sur des bases techniques très simples. On était sur du low-tech le plus souvent, en fait. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin forcément d'un appareillage technique très, très sophistiqué pour continuer à essayer de comprendre notre monde et à l'observer et à le connaître. Bon. Donc ça, ce serait la première réponse à ce que vous dites, mais il y avait des choses aussi que vous évoquiez à propos de l'art, des loisirs. Pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. Au contraire, en fait, cette civilisation industrielle se caractérise aussi par une hyper-spécialisation, une professionnalisation, notamment de l'art, qui me paraît très problématique. Là aussi, finalement, on dépossède les humains ordinaires de leur capacité à faire de l'art. Bon, il n'y a vraiment pas à aller chercher très loin, mais je connais pas bien l'histoire du Québec, mais je connais un peu celle de mon pays d'origine. Les paysans bretons, ils faisaient de l'art, ils chantaient, ils dansaient, ils faisaient des coutures absolument extraordinaires. Enfin, il y avait tout un art qui était extraordinaire, dont ils sont dépossédés, en fait. Donc, reconquérir un monde vécu, c'est reconquérir sa capacité, en fait, à produire sa propre culture, en fait. Pas seulement son agriculture, mais sa culture aussi. Donc ça, pour moi, vraiment, c'est vraiment un des arguments majeurs. Mais qui fait hurler aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'étais invité par des professionnels de la culture, où j'ai amené ces idées-là. Je me suis fait rentrer dedans, parce qu'effectivement, on a des humains qui sont devenus des professionnels, qui sont, comme disait Illich, des professions incapacitantes, en fait. C'est-à-dire, vous êtes plus capable de faire de l'art vous-même, on va vous aider, en fait. Bon, mais c'est la même chose pour les soins. On a perdu notre capacité à se soigner nous-mêmes, en fait. Donc, il faut reconquérir aussi cette capacité, avec l'aide de gens plus savants que nous, pourquoi pas, mais pas en leur déléguant tout pouvoir et toute action sur ce terrain-là. Alors, donc ça c'est pour l'art, pour la culture, pour la science, les loisirs. Les loisirs, C'est sûr que dans un monde post-croissance qui vise la subsistance, il y aura du boulot. Bon, il y aura du boulot, mais si c'est un travail libre qui est fait par et pour nous-mêmes, bon, pourquoi pas. Et il peut y avoir une grande satisfaction à ça. Il peut y avoir une grande satisfaction. Ambre, qui est là, qui est aussi membre de Polemos, s'intéresse à ces questions-là et qui rejoignent Mariamise. Mariamise, que j'évoquais tout à l'heure, dit, mais finalement, tout ce travail de reproduction, le fait de nettoyer, de bon, qui est considéré un peu comme un sale boulot, un travail dont on veut pas, qu'on va donner, ben, dans nos pays riches, aux femmes noires, par exemple, hein, qui viennent de, bon, qu'on a fait venir de, d'ailleurs, etc., bon, aux gens qui sont marginalisés, ben, un des enjeux, c'est aussi de revaloriser ces tâches-là et de voir ce qu'elles ont de beau aussi, en fait. Moi, c'est une position facile, hein, d'homme blanc riche qui peut dire ça, mais je pense que c'est quelque chose de très très sensé quand même dans cette position-là. Donc oui, beaucoup de boulot, un boulot qu'aujourd'hui on pourrait considérer comme finalement un boulot pas très attrayant, mais si on le fait par pour nous-mêmes, dans les perspectives que j'ai indiquées, pourquoi pas en fait. Donc et puis du loisir, on en aura quand même. C'est aussi, par exemple, la question culturelle. Bon, en y réfléchissant l'autre jour, en débattant avec ces professionnels là que j'avais exaspérés, notamment une partie de l'activité culturelle, elle était combinée et complètement intégrée finalement à des activités de subsistance en fait. Il n'y avait pas bon, il y a le moment culturel, le moment boulot. Non, c'est finalement les chants bretons là qu'on apprenait, les danses bretonnes, c'est des danses de travail en fait. Donc bah oui, c'est on combine en fait, on arrête de découper notre vie en petits morceaux et on intègre tout ça en fait. Donc je pense là vraiment il y a pas de souci de ce côté-là. Moi, au contraire, on va y gagner vraiment.
Moi, j'avais une question, en fait, qui revient probablement à la première intervention qu'on parlait tantôt par rapport aux connaissances des élus. Vous parliez, en fait, un peu plus tôt de municipalistes, où est-ce que ça serait moins les experts, mais plus la population, en fait, qui voterait. Et ça m'amène à penser que, comment dire, des fois, est-ce que on prend le risque, en fait, de prendre des décisions sans être totalement en connaissance de cause, de ce qui peut se passer, en fait.
Okay.
Je vois aussi que dans des petites municipalités, des fois, en fait, autant les élus que souvent les élus, on vote un peu plus pour eux-mêmes, pour, tu sais, moi, j'ai mon ami qui est là-dedans, puis tout ça, même dans des petites MRC aussi, j'en ai rencontré beaucoup dernièrement, que c'est comme ça. Mais en même temps, dans les séances de conseil, je vois qu'il y a des gens de la population qui sont, tu sais, vraiment, vraiment intéressés, qui connaissent très bien leur sujet, puis qui peuvent prendre des décisions très bien pensées. Mais c'est ça, si tout le monde choisit ensemble, des fois, il y a des gens qui votent sans trop savoir pourquoi ils votent, c'est ça.
Ok, merci beaucoup. Merci, ça va me permettre de défendre un peu mieux la perspective municipaliste. Alors c'est intéressant, vous dites « Ah, ça m'inquiète, finalement, une petite municipalité, il y a des gens qui vont user de leur pouvoir pour leurs intérêts. » Mais bon, finalement, c'est ce qu'on a dans nos États, à une échelle bien plus grave. Hein, pour une municipalité, petit pouvoir, État-nation, gros pouvoir. Donc là, aujourd'hui, on a quoi? On a une oligarchie qui dirige nos pays et qui bosse pour eux-mêmes, pour la classe bourgeoise, fondamentalement. Donc on est dedans. Alors, ce risque, il est humain, fondamental. Il y a toujours le risque que le pouvoir nous échappe. Par contre, ce risque, il est peut-être un peu plus réduit si ce pouvoir, on lui donne des limites, si on essaye de le contraindre à une échelle notamment municipale. Donc pour moi, c'est plutôt un argument en faveur de la municipalité, de la petite échelle. Donc voilà pour la deuxième inquiétude que vous évoquiez. Et puis la première inquiétude qui est vraiment essentielle, c'est finalement, mais si on laisse les gens décider, ils vont peut-être prendre des décisions sans bien savoir de quoi ils parlent, etc. Donc c'est finalement, c'est la crainte que sans experts, finalement, on s'en sorte pas, quoi. Bon. Ah, là-dessus, on a un cas qui est magnifique, que j'évoque toujours, qui est celui de la Convention citoyenne sur le climat en France, que Macron a accepté finalement de mettre en place en 2019, qui est un exercice démocratique. On a joué le jeu démocratique jusqu'à un certain point, puisque finalement l'idée c'était juste que cette convention débouche sur des propositions. Un vrai jeu démocratique, c'est pas juste des propositions, c'est la décision. Mais bon, quand même, ils ont joué le jeu en ce sens que ils ont tiré au sort 150 Français et Françaises, de tous les bords, de tous les horizons. Sûrement certains qui connaissaient un peu le sujet en question, d'autres qui ne le connaissaient pas. Le sujet en question, c'est quoi? La question climatique. On leur a demandé, en l'espace de quelques fins de semaine, on les a réunis, on leur a payé à bouffer, le toit, et l'accès à toute l'information qu'ils voulaient, en quelques fins de semaine, on leur a demandé de faire des propositions pour affronter la crise climatique. Bon, Donc on avait des gens, là encore, vraiment tirés au sort. Donc procédé démocratique par excellence, le tirage au sort, si vous êtes démocrate, si vous avez besoin de déléguer, c'est le procédé le plus cohérent qui soit. Donc on a joué ce jeu-là. Et quand on regarde les propositions de ces 150 Français et Françaises, bah, quand on les met toutes ensemble, on a le début de l'esquisse d'un projet de décroissance, en fait, si vraiment on les combinait. Donc très très sensé, de mon point de vue, hein, très sensé. Pas du tout du point de vue de Macron, qui, justement, effrayé du résultat, finalement, a été obligé de se dédire, parce qu'il avait promis de faire un référendum autour de ses propositions, puis d'en amener un certain nombre à l'Assemblée nationale pour que ça devienne éventuellement l'objet de loi. Il en a gardé 5%, je crois. Bon, donc voilà, là, on a un exercice intéressant, en ce sens, qui démontre que quand on joue vraiment le jeu démocratique, ça peut avoir des résultats intéressants, et même s'ils l'ont joué qu'en partie. Donc, moi, j'aurais plutôt confiance. Hein. Et puis, je dirais une dernière chose par rapport à votre inquiétude qui est tout à fait, enfin que je partage aussi, de prendre des décisions sans bien savoir finalement à quoi on va s'exposer. Mais c'est qu'en fait, ça, effectivement, ça c'est notre sort à tous et à toutes aujourd'hui. Il n'y a personne aujourd'hui. Aucun expert aujourd'hui ne peut dire effectivement que lui, il sait mieux que les autres ce qui va se passer. C'est pas vrai. On est dans un monde totalement aujourd'hui incertain et inconnu. Et c'est précisément cette incertitude radicale à laquelle on est condamné actuellement, qui justifie d'aller chercher tous les points de vue, en fait, le plus de points de vue possible. Certainement pas que ceux des experts, parce que ces experts, pour qui ils bossent aujourd'hui, pour le capital et pour la puissance. Donc, faut vraiment se défaire de cette crainte-là. Justement, au contraire, allons chercher des avis, tous les avis, hein, y compris les plus ordinaires, les plus modestes. En fait, on en a vraiment besoin.
Super. Merci.
Moi, je voudrais intervenir sur le commentaire du début, parce que vous avez parlé de qu'est-ce qu'un citoyen normal dans notre société? C'est quelqu'un qui va en faire le moins possible pour en avoir le plus possible. J'ai grandi sur une ferme, ici à Saint-Narcisse. J'habite à Saint-Narcisse. J'ai été parti 25 ans. Je suis de retour. Tout ça. Et à l'époque, dans la rame où j'étais, il y a eu 2 incendies de maison. Il n'y avait pas d'assurance à l'époque. Tout le monde s'est mis ensemble pour construire une maison. Tu sais?
Hein? C'était quelles années, monsieur?
Oui. Tout le monde ensemble. Mm. Pas payer rien, là. On va reconstruire la maison. Il y a un cultivateur qui s'est cassé un bras, à un moment donné, il ne pouvait pas faire les foins. Tout le monde était faire les foins. La nature humaine n'est pas dans « j'en fais le moins possible pour le plus possible ». Par contre, depuis milieu des années 80, on est dans ce qu'on appelle le néolibéralisme. Reagan, Thatcher, tout ça, la déréglementation à outrance pour le capitalisme. Et ça veut dire le jeu. C'est toi qui te fais toi-même. Les vedettes que tu as parlé tout à l'heure, c'est la même chose. Et les années 80, là, milieu des années 80, là, ça fait 40 ans, là. OK. Ça veut dire que les gens de 55 ans et moins, ils n'ont rien connu d'autre que l'idéologie néolibérale qui domine la société. Mm-hmm. Mais ce n'est pas la nature humaine, ça. C'est l'idéologie dominante. Et c'est ça qu'il faut combattre, tout simplement.
Ma question est par rapport à un monde post-croissance concernant les technologies au niveau de la médecine médicale. Bien que je crois vraiment sincèrement à une médecine de prévention, à de la nourriture saine, à un exercice physique, à des plantes médicinales pour nous soigner dans le quotidien, une opération à cœur ouvert, une reconstruction de la hanche puis une césarienne d'urgence, c'est pas quelque chose que je vois nécessairement dans un monde post-croissance. Si vous pouvez m'éclairer sur comment vous pouvez m'expliquer un peu comment que la médecine dans ce monde post-croissance pourrait réagir, travailler pour l'humain, ça m'éclairerait beaucoup. Merci.
Vous l'avez dit un peu, tu l'as dit. Salut. à chaque fois que je viens, elle vient m'embêter avec ces questions. C'est bien. Mais merci beaucoup. Mais merci de revenir. Et
venez, j'aime venez. Beaucoup votre utopie. Je suis vraiment d'accord avec vous.
Je te remercie de venir vraiment m'emmerder. C'est ça que je viens chercher aussi. Donc, non, mais bon, tu m'amènes à revenir sur la question de la médecine, qui n'est pas une question sur laquelle j'ai travaillé actuellement. Mais j'aurais quand même envie de déplacer un peu la discussion en faisant le bilan aujourd'hui du système médical, en fait. Parce que c'est quand même indirectement ce que tu es en train de défendre. C'est finalement, il y a quelque chose de bon dans ce système. Ce système, il présente aujourd'hui trois caractéristiques de plus en plus problématiques. Il coûte de plus en plus cher, collectivement. C'est un gouffre financier. C'est aussi un gouffre écologique. Son empreinte écologique ne cesse d'augmenter. Donc collectivement, c'est pour nous un coût énorme. Pour peut-être un certain nombre de bienfaits qu'on peut défendre, je suis d'accord. Par ailleurs, ce système, il est victime de ce que Ivan Illich, que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, appelait un effet de saturation, en fait. De différentes manières, en fait. Donc on le voit, saturation des urgences. Pourquoi saturation des urgences? Parce que précisément, comme on a complètement perdu toute capacité à se soigner soi-même, la seule solution pour se soigner aujourd'hui, c'est les urgences. Bon, et c'est ça l'effet finalement paradoxal de cette professionnalisation, c'est que bon, on a des humains qui sont complètement vulnérables par rapport à la maladie et qui n'ont pas d'autre solution que de se garrocher vers les urgences et de les saturer. Urgence, où ils veulent arriver quoi? Parce que tout ça, on concentre ces humains dans ces espèces d'énormes machines à soigner. Les maladies nosocomiales, notamment. Ces maladies qu'on attrape à l'hôpital. On rentre avec une maladie pour se soigner contre une maladie, on ressort avec une autre maladie, potentiellement mortelle. Les chiffres québécois sont énormes. C'est 10% hein, des gens qui rentrent à l'hôpital qui risquent de sortir avec une autre maladie. Bon, c'est énorme. C'est ça, une des inefficacités du système. Et système, donc, qui nous rend toujours plus dépendants et donc qui nous fragilise, notamment quand on doit affronter un truc comme ce qui s'est passé avec la pandémie. Où on s'est retrouvé dans une situation incroyable, où finalement l'État nous demandait de protéger le système de santé. C'est-à-dire le système qui est censé nous protéger, on nous demandait de le protéger. De retournement complètement incroyable, donc par rapport au projet médical. Alors, et puis quand on regarde les résultats, par exemple sur cet indicateur, qui est le grand indicateur dont nous sommes très fiers en Occident, qui est l'espérance de vie. Ben, en fait, aujourd'hui, on continue à investir de plus en plus dans ces systèmes de santé et l'espérance de vie. Finalement stagne. Et surtout, quand on compare les pays, on voit des pays où on met beaucoup moins d'argent dans ce système médical ultra sophistiqué et où on a un niveau d'espérance de vie qui est équivalent. Donc, en fait, continuer à jouer cette game-là, pas sûr que ça soit gagnant. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand même par rapport à ce que tu disais?
C'est sûr qu'idéalement, on s'en va chercher de la prévention. Donc, on explique aux gens comment se soigner par eux-mêmes d'abord et avant tout. Mais ultimement, quand on a une femme enceinte qui a besoin d'une césarienne d'urgence, là, faut agir. Là.
Ouais. Alors, est-ce qu'on a besoin? Là, je sais qu'il y a au moins un médecin dans la salle. C'est Dominique qui a parlé tout à l'heure. Qui pourra répondre à ma place, mais est-ce qu'une césarienne d'urgence, ça suppose des techniques ultra sophistiquées? Je suis pas absolument persuadé, j'en sais rien. Faut demander à Dominique. En tout cas, beaucoup moins sophistiquées, je pense, qu'un scanner, par exemple. Donc, qui est, j'imagine, aujourd'hui une des machines les plus sophistiquées. Par rapport à la proposition que j'ai amenée, puis que finalement tu as reprise, si déjà on s'invente une façon de vivre beaucoup plus saine, il y a quantité de maladies de civilisation aujourd'hui qui vont disparaître, qu'on appelle justement des maladies de civilisation, qui sont la conséquence même d'un certain mode de vie, d'une certaine façon d'exister. Avec les moyens qui nous restera,
mais ultimement, comme bon, là, je veux pas faire de scandale, mais par rapport justement aux vaccins, là, je parle de tous les vaccins qui ont été inventés dans le courant du 19e, 20e siècle, je veux dire, c'est par la technologie, c'est par la recherche qu'on a réussi à développer ces vaccins-là et qu'on a réussi aussi à sortir de certaines épidémies assez foudroyantes, là.
Ouais. Est-ce que là aussi ça suppose des techniques aussi sophistiquées compliquée que celle qu'on défend et qu'on continue à développer aujourd'hui, je sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il me semble que si on résout les problèmes de fond, c'est-à-dire ceux qui touchent à notre mode de vie et à notre milieu de vie, avec les moyens qui nous restera, peut-être qu'on pourra se payer encore quelques machines sophistiquées, pourquoi pas. Mais on aura déjà résolu une grande partie de nos problèmes, en fait. Donc, moi, c'est pas mal là-dessus que je parierais. Mais après, il faudrait rentrer dans des connaissances techniques que j'ai pas. Puis on peut peut-être écouter Dominique si elle veut prendre la parole, mais ou d'autres infirmières, infirmiers ou médecins. Mais merci de ta question.
Merci beaucoup. On va être dû pour un café.
Ouais. Plutôt une bière.
Donc, pour reconquérir notre monde vécu, là, clairement, ça prend un changement de culture. Là, ça a été évoqué plusieurs reprises ce soir. Vous êtes professeur. Moi, je suis enseignante ici au Cégep de Rimouski. Je vois plusieurs de mes collègues aussi, des gens qui sont dans la profession de l'enseignement ou dans le milieu scolaire. Il y a des étudiants et étudiantes aussi. Donc, ça fait plaisir à voir, mais quelle serait, d'après vous, la place de l'enseignement et de façon plus large de l'éducation là, dans ce changement de culture-là, pour l'avenir?
Je sais pas ce que vous faites, comment vous travaillez de votre côté, je sais pas.
Moi, je suis enseignante en langue.
En langue, ouais. Ok.
Donc, j'essaie de squeezer des contenus.
Ah, voilà, c'est ça?
Dans des cours d'anglais, voilà.
Voilà. On peut faire des langues et parler de décroissance, ça me paraît vraiment tout à fait compatible. Donc, je pense que ces luttes dont je parlais tout à l'heure, j'ai parlé de luttes symbiotiques, c'est-à-dire des luttes qu'on fait à l'intérieur du système, qui présentent des risques parce qu'on risque toujours de se faire manger par le système. Moi-même, je suis dans une position un peu délicate à HEC. Je sais pas dans quelle mesure je effectivement ce que je fais à HEC est vraiment pertinent ou pas. Peut-être que finalement je joue juste le jeu d'une école qui a besoin d'une vitrine qui lui permet de dire, regardez, on a même un type qui parle de décroissance chez nous, on est vraiment bien, venez chez nous, parce que c'est ça qui compte pour l'école. Ce qu'elle veut, c'est faire entrer des étudiants. Donc c'est un vrai risque, cette fameuse stratégie symbiotique, qui est d'abord une façon d'essayer de gagner sa croûte et de manger, pour moi, bon, évidemment, comme pour tout le monde. Sinon on peut dans le cas d'HEC, en ce qui me concerne, j'ai pu créer ce cours sur la décroissance, sans doute à la faveur de justement de circonstances. Donc saisir des circonstances qui permettent d'avancer un peu. Il y a eu un moment un trou en fait dans lequel j'ai pu m'engouffrer et puis j'ai créé ce truc-là. Je passais un peu vraiment entre les mailles du filet parce que c'est une fois que le cours a été créé, il y a des gens qui se sont réveillés et qui ont dit comment ça on a laissé passer ça. Mais le cours existait et il y avait des étudiants. Alors comme il y a des étudiants, il y a de l'argent qui rentre et c'était sauvé. Mais voilà, donc c'est partout où on est, on peut faire avancer ces idées-là. Un des slogans qu'on utilise dans la décroissance, c'est cette idée de décolonisation de l'imaginaire. Donc ça, je pense que en tant que prof, c'est une grosse partie de notre boulot, de venir questionner un peu toutes ces évidences dont on a parlé ce soir. Est-ce que l'humain est une sale bête, par exemple? Est-ce que l'humain est capable de coopérer? Est-ce qu'on est condamné justement à la quête du pouvoir à tout prix? Voilà des choses sur le plan anthropologique, mais aussi sur d'autres terrains. Donc comment voir le monde naturel autrement qu'on le voit, autrement que comme une simple ressource, par exemple une idée comme la biologie. Enfin, donc c'est donc tout un travail de questionnement en fait des évidences sur lesquelles ce monde tient en partie en tout cas et qui contribue à la reproduction de ce monde. Je pense que c'est un bon, on est en bonne place dans l'enseignement pour faire ce boulot-là, il me semble.
Merci beaucoup.
Oui, une question. En fait, je me demandais, vous me direz si je déforme vos propos, en fait, mais vous disiez que pour la décroissance, on veut valoriser l'environnement, la liberté, puis la justice.
Ouais.
Mais qu'un des facteurs qui va à l'encontre de ça, c'est la libre entreprise.
Ouais.
Comment qu'on va contre la libre entreprise sans s'attaquer à la liberté?
Ah. C'est vrai. Bien. Bien, bien envoyé. Bien envoyé. Pour moi, la vraie liberté, c'est la liberté politique. C'est celle qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est-à-dire celle de pouvoir décider des lois auxquelles on va se soumettre. Parce qu'on va se soumettre à des lois. Et ça, ces lois seront des limites à notre liberté individuelle. Et donc, quand je fais la promotion de la démocratie, notamment à une échelle municipale, c'est cette liberté que je mets de l'avant. C'est pas la liberté de faire ce qui me plaît. La liberté de faire ce qui me plaît, c'est celle qu'on accorde aujourd'hui à l'entreprise, et ça, effectivement, c'est non. Donc oui, il faut mettre des limites à certaines formes de liberté, au nom d'une autre forme de liberté, qui est celle qu'on peut appeler aussi l'autonomie, c'est-à-dire se donner à nous-mêmes nos propres normes, sachant qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Les normes qui nous gouvernent, ce sont celles que je disais tout à l'heure de manière peut-être trop rapide et caricaturale, mais celle de la profitabilité et celle de la quête de puissance, en fait, fondamentalement. Donc, pas d'efficacité, mais de puissance. On est très puissant. Enfin, certains sont très puissants. Donc voilà, donc ça me paraît pas contradictoire, fondamentalement. À partir du moment où on reconnaît finalement dans la notion de liberté deux dimensions fondamentales et qui sont d'ailleurs en partie contradictoires quand même. Donc en tout cas mettre des limites à cette libre entreprise, ça me paraît crucial.
Super. Merci pour l'explication.
Bon, je voulais intervenir sur la question de la santé. Ce matin, j'ai eu un appel téléphonique de quelqu'un qui m'a dit que son voisin a perdu son frère à l'hôpital. Il s'est étouffé dans son vomi parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Fait que, tu sais, je me dis, l'argent là, qui s'en va dans les super spécialités, elle pourrait être mis ailleurs dans le système de santé. Okay. Et concernant l'obstétrique, il y a des ruptures de services partout, dans toutes les régions du Québec, régulièrement. Pour des suivis d'accouchement normaux. Il faut aller coucher à Québec ou à Rimouski pour les gens de Matane. Ou, puis je me dis, non, on ne regarde pas le problème de la bonne manière.
J'étais à Saint-Valérien avec des étudiants l'an dernier. Et un des problèmes de Saint-Valérien, c'est que il n'est pas possible pour une personne âgée d'y vieillir, en fait. On est condamné, justement, à aller dans des grandes villes, dans des grands centres, qui sont des espèces de pièges aussi, justement des pièges qui se sont refermés sur beaucoup d'humains pendant la pandémie. Donc c'est ça aussi, la perte d'un monde vécu, en fait. C'est tout simplement d'être obligé de quitter l'endroit où on a vécu, où on a envie de vivre, parce que on a un système médical qui, pour des raisons d'efficacité, en fait, concentre tout, au lieu de, justement, de déconcentrer, d'offrir des moyens de prise en charge de ces personnes âgées, là où elles vivent, en fait. Voilà quelque chose qui serait pertinent. Je sais pas quel coût ça représenterait, mais je suis pas sûr que ça soit pire que ce que aujourd'hui génère comme coût notre système.
C'était pour revenir un peu sur la question de concernant la santé puis la science aussi. Tu sais, je me dis il y a comme une contradiction entre la société de décroissance puis toute forme de technologie qui serait un petit peu plus avancée. Tu sais, vous parlez de la simplicité puis de l'accessibilité puis tu sais, je veux bien, mais à un moment donné il y a une certaine forme de technologie qui est requise pour faire certaines avancées. T'sais, il me semble que pour la vaccin de la COVID, ça prend du séquençage de génome. Je suis pas sûr, mais ça a l'air compliqué. Je pense aussi, moi je suis physicien, je pense notamment mettons, à faire de l'astrophysique. L'astrophysique, c'est clairement pas une science qui est mise à profit capitaliste. C'est pas quelque chose. On s'en fout peut-être un peu des étoiles ou ce qui se fait dans les accélérateurs de particules, on s'en fout peut-être un peu aussi. Ça contribue pas vraiment à la vie humaine, mais à quelque part, il y a une espèce de désir humain, j'ai l'impression, une espèce de curiosité profondément humaine dans la recherche de savoir.
Okay.
Puis ça prend... Je veux bien que la technologie ait été instrumentalisée par le capitalisme, puis que ça détruit des milieux de vie, l'extraction des matériaux pour construire ces technologies-là, c'est dévastateur.
Okay.
Mais il n'y a pas comme un juste milieu qu'on serait capable d'avoir.
Vous êtes en train d'essayer de sauver vos machines, quoi. C'est ça.
Qui aime vraiment son
micro, mais bon, là-dessus c'est peut-être pour moi le plus facile. Enfin, je vraiment cette curiosité, j'y crois aussi. Enfin, je pense que c'est une caractéristique de l'être humain, puis peut-être quelque chose qui peut être beau, même si on appelait ça un vilain défaut quand j'étais petit, mais la curiosité. Mais en quoi aurait-elle besoin forcément de s'appuyer sur des machines? Je vois pas, en fait. Je vois, je pour moi, cette curiosité, ce souci d'essayer de comprendre, il me semble qu'elle peut s'exprimer sans l'appui de ces machines toujours plus puissantes, même si dans notre petit collectif de recherche, on en a un qui est très critique des techniques, mais qui continue à rêver d'exploration spatiale. Il a une contradiction lui aussi. Bon, il continue à trouver ça magnifique. Non, mais je comprends. Mais j'ai l'impression que, puis surtout quand on voit justement cette science occidentale, elle s'est quand même développée à l'origine sur la base de techniques très simples, finalement, extrêmement simples. Je voyais l'autre jour, je lisais sur le pendule de Foucault, enfin, une espèce de démonstration, la physique extrêmement simple avec un pendule. Enfin, c'est du low-tech, quoi. Bon, il fait quelque chose de génial, quoi. C'est génial, enfin, vraiment. Puis bon, sans zéro technique. Sur le vaccin, puisqu'on y revient. Bon, sur la question de la Covid. Moi, je reviendrai là aussi en amont. C'est-à-dire, d'où vient la Covid? Bon, qu'est-ce que c'est que la Covid? C'est clairement une maladie de civilisation. Enfin, c'est un symptôme de la société de croissance. C'est peut-être une zoonose, c'est-à-dire la conséquence d'un contact entre humains et animaux sauvages dû à une destruction d'habitat pour ces animaux. Ensuite, pourquoi cette zoonose se répand à aussi grande allure et avec une telle ampleur à cause de cette nécessité des échanges internationaux qui est au cœur de la société de croissance. Donc, et ensuite, pourquoi ça fait autant de dégâts? Bah, ça fait des dégâts sur des humains qui sont déjà malades, en fait, qui sont en général malades de maladies de civilisation. D'où l'idée de, comment je retrouve plus le terme qui a été utilisé par un médecin anglais pour dire que c'est pas une pandémie, c'est une syndémie. C'est-à-dire que cette idée que ça a fait des dégâts, surtout quand c'était associé à un certain type déjà de mal. Donc voilà, si on résout une partie de nos maladies de civilisation, une partie de nos problèmes, c'est le genre de choses qu'on n'aura pas à affronter. Mais ça répond pas complètement à la question des vaccins, j'en ai conscience.
Non, mais c'est surtout au niveau de la science, c'est ça. Mais je comprends, c'est peut-être que cette recherche-là est aussi futile là, dans un certain sens. C'est quelque chose qu'on va devoir, si on veut vraiment, vraiment décroître, ben, à un moment donné, c'est parce que plus la science se complexifie, plus les outils qui sont nécessaires pour développer des modèles qui nous permettent de la comprendre sont complexes. Ouais. À un moment donné, peut-être qu'il faut juste se dire, ben.
Et puis surtout, ben, là, je sais pas comment vous pratiquez la physique, mais bon. Prof, en tant que chercheur, on voit aujourd'hui dans la recherche finalement un productivisme à peu près semblable à celui qu'on peut observer partout ailleurs, où en fait il s'agit de produire pour produire. C'est ça le productivisme, hein, c'est produire pour produire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande de faire, produire pour produire. Et donc la finalité de la chose, elle est quasiment, elle est plus complètement. Donc sortir de cette logique-là, ça permettrait peut-être de réinventer quelque chose comme une science qui aurait de l'allure et qui serait défendable. Mais aujourd'hui, et comme disait un autre de mes collègues, lui un biochimiste, disait en plus, on produit dans des proportions telles qu'en fait personne n'est capable d'assimiler le produit de cette connaissance. En fait, on a une surproduction, quoi, donc qui est inassimilable aujourd'hui par les humains. Ou alors, on va justement justifier que l'intelligence artificielle va être la seule manière d'essayer de traiter tout ça. Bon, là, on est dans une espèce de course folle, quoi, qui est ouais, de plus en plus problématique.
Voilà. La surproduction de la science, j'avais pas vu ça. Ouais.
Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont venus, c'était vraiment intéressant, mais des jeunes adolescents, très jeunes adultes, on n'était pas une énormité. Je trouve que c'est difficile parce que autant que c'est bien qu'on parle d'environnement, autant qu'on se fait super désensibiliser parce que on nous envoie tout ça, trouver des solutions, ouais, trouver des choses, on peut faire ça, mais que c'est plus difficile parce qu'au Québec, quand tu viens d'un milieu plus privilégié, c'est difficile de concrètement voir les impacts de notre consommation. Puis, tu sais, moi, je suis une des personnes qui, j'essaie de me conscientiser le plus possible. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais comment on va chercher ces personnes-là qui ont peut-être pas eu accès à cette information-là? Fait que comment on démocratise ce mouvement de mobilisation-là? Puis, comment est-ce qu'on continue à être motivé? Parce que, tu sais, moi, en ce moment, on dirait que j'ai eu une grosse vague de motivation. Parler des différentes choses qu'on pourrait faire, c'est vraiment intéressant. Mais en même temps, quand tu regardes le travail qu'on a à faire, puis en plus, le fait que, oui, on veut se rendre à cette utopie-là, mais en attendant, on est quand même dans un système capitaliste. En attendant, on a quand même des études à payer. En attendant, on doit quand même payer notre loyer puis notre épicerie. Puis je dis ça, puis j'habite encore chez mes parents, fait que c'est même pas ma réalité encore, là. Mais c'est comme, c'est des stress. Puis tu sais, on parle beaucoup d'éco-anxiété, mais on m'a introduit le système d'éco-lucidité. De l'éco-anxiété, ça traite surtout de ce qui n'est pas encore arrivé. Mais là, les changements climatiques, c'est là en ce moment. Mais on dirait que autant qu'on est super conscientisé, autant que ça nous désensibilise dans un autre sens, parce que on se le fait dire à tout bout de champ. « Oh, vous faites ça de pas correct. Oh, il y a ça, il y a vos téléphones, les affaires. Moi, dans mon temps. » OK, mais T'sais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Parce que je suis ouverte à recevoir, mais c'est difficile quand on est une minorité des jeunes à vouloir se mobiliser parce qu'il y en a plein qui ne savent juste pas quoi faire.
Ouais. OK. Merci. Donc je pense qu'effectivement la première chose à faire c'est de pas laisser les vieux comme moi dire c'est vous la solution. Bon non, les vieux c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui, donc c'est eux qui ont le plus de capacité d'agir. Donc il faut aller chercher les plus vieux sur leur pouvoir, leur dire bon écoutez c'est non, venez pas me mettre ça sur le dos, c'est à vous de commencer à vous mettre en chemin. Bon. Évidemment c'est quand on est vieux, on a aussi tendance à trouver ça plus difficile de se bouger et de remettre en question tous les privilèges dont on bénéficie. Donc ça c'est pas évident. En venant tout à l'heure sur la route, on réécoutait une petite intervention de Frédéric Lordon à propos de l'éco-anxiété. Où lui finalement disait non, il faut pas être éco-anxieux, faut être éco-furieux. Faut être éco-furieux, c'est faut se donner des cibles. Donc bien identifier les cibles du problème, c'est ce qu'on essaye de faire dans la décroissance. C'est-à-dire ben le problème, il est où? Il est du côté du capitalisme, il est du côté des technosciences, probablement aussi à mon avis du côté de l'État bureaucratique. Voilà les choses auxquelles il faudrait s'attaquer. Et quand on a déjà une bonne connaissance des cibles, bon, c'est un peu moins angoissant en fait. Hein, on a bon. Voilà. Alors ensuite, comment mobiliser autour de vous? Comment pas rester comment rester motivé? Déjà pas rester seul en fait, pas rester seul. Essayez justement de trouver au moins un collectif, même petit, pour affronter tout ça. Ça c'est la base. Et c'est la proposition des croissancistes. On ne changera rien tout seul. On changera que si on collectivise un peu l'action. C'est ça, faire de la politique. Donc essayez de faire ça collectivement. Et puis comment aller chercher des gens qui sont pas sensibilisés, qui sont pas dans des milieux privilégiés, peut-être qui ont eu accès à des études. Moi, je trouve qu'une des façons de faire, ça peut être de partir des problèmes que vivent les gens aujourd'hui, en fait, parce que en fait, ce monde-là effectivement inflige énormément de souffrances, en fait, à peu près à tout le monde. Et donc, il est pas très difficile d'interroger un peu les gens sur leur existence. Et toi, ça va, machin, qu'est-ce que tu vas payer ? Partir de là pour ensuite mettre en évidence le fait que ces difficultés que vivent les gens que vous rencontrez, on peut les attribuer à toutes ces raisons là que j'évoquais tout à l'heure. C'est une façon d'avancer. L'autre truc qui m'a surpris, puis je l'avais testé justement en étant invité à Saint-Valérien, c'est que cette idée d'autonomie, de reconquête d'un monde vécu, ça parle beaucoup en région, beaucoup moins à Montréal, bizarrement. Vraiment, j'ai énervé mes étudiants là à faire l'apologie du village et tout, là, ils trouvaient ça vraiment complètement régressif là. Mais par contre, parler de ces questions-là finalement en région, ça avait du sens finalement, y compris vis-à-vis de personnes qui étaient pas du tout anticapitalistes, mais qui trouvaient intéressant cette idée de retrouver finalement une forme d'autonomie, c'est-à-dire de pouvoir sur sa vie. Donc ça aussi, je pense, c'est une thématique qui peut être intéressante à mobiliser pour amener du monde avec vous. Mais bon, il n'y a pas de, c'est de la politique, donc il n'y a pas de solution magique. Bon, j'ai donné quelques pistes, créer des initiatives concrètes aussi. C'est une autre façon d'embarquer des gens, leur faire voir d'autres manières de vivre qui viennent peut-être combler des besoins qui sont mal comblés par ce monde-là. Ça peut être une bonne façon de commencer à rejoindre aussi du monde, militer, pas seulement dans un parti, faire comme Noémie ou se présenter au municipal, mais ça peut être aussi militer dans un mouvement écoféministe qui défend la subsistance. Voilà des choses qui seraient intéressantes.
Merci beaucoup. Quand on est plusieurs humains ensemble et qu'on se réunit dans un petit village, on vient à être une communauté. Et cette communauté-là génère des taxes ou des impôts. Là, je veux pas parler des impôts fédéraux ou des impôts provinciaux qui peuvent être à la fois corrompus et à la fois injustes car les paradis fiscaux existent, mais là, je veux pas faire un Alain Donneau de moi-même, mais dans l'idée qu'on amène des taxes pour avoir un commun. Que pensez-vous de cette idée-là de générer cet argent-là collectivement pour pouvoir se créer un village ou un lieu d'habitation plus sain, plus en
en harmonie avec, avec l'idée de la décroissance.
OK. Merci. Est-ce que ça va prendre la forme de taxes monétaires? Pas forcément. Je pense que la logique du commun, justement, c'est une logique de participation, en fait. Et on n'est jamais plus engagé vis-à-vis d'une communauté quand on paye de sa personne, en fait. Justement, une façon de se désengager vis-à-vis d'une communauté, c'est de payer en argent. C'est des choses qu'on voit d'un point de vue sociologique. C'est finalement, c'est un lien très faible, le lien monétaire. Par contre, quand on va soi-même s'engager, ça va sans doute beaucoup plus consolider cette dynamique collective. Maria Mies, dont j'ai beaucoup parlé, évoquait dans son village natal justement le fait qu'il y avait des corvées régulières où toute la collectivité venait finalement pour entretenir le territoire, accomplir un certain nombre de tâches nécessaires pour entretenir des infrastructures. On a eu l'exemple de l'incendie. Bah voilà, c'est pas des taxes, mais c'est finalement des bras, des humains qui se sont mis ensemble. C'est sûr que la participation. Enfin, il y a un coût au commun. Évidemment, c'est pas gratuit un commun. Mais ça peut prendre la forme non pas d'un coût monétaire, mais d'un coût en énergie, dans participation. C'est plutôt comme ça que je le défendrai. Mais,
Merci.
Je fais partie, avec d'autres gens dans la salle, d'un groupe de démocratie directe. On mise sur le municipalisme. Puis s'il y a d'autres gens qui sont intéressés à joindre le groupe, on va mettre une petite feuille à l'avant. On parlait d'utopie tantôt, puis tu as cité Bookchin dans sa critique du futurisme. Bookchin disait « Le futur, c'est le présent maintenant. Il faut s'intéresser au champ politique, il faut avoir des conversations sur la décroissance, sur le municipalisme, en dehors de juste des conférences comme ça. Il faut amener ça dans les cafés, il faut parler avec ses grands-parents, il faut parler avec ses amis, il faut parler avec ses oncles et ses tantes de choses qui importent. Il faut militer car l'heure est à la révolte. »